en route pour cet après-midi, dans la foulée de la matinée qui a été dans les débats, pour lesquels les débats et les contributions étaient passionnantes. Et donc, cet après-midi sera plus centré sur l'expérience des chercheurs, parfois des chercheurs au concret, au quotidien, comment ils peuvent le vivre. Et on terminera par une contribution des gestionnaires de la recherche. Ça se terminera par là, presque inévitablement. Donc, sans tarder, je passe la parole à Bernard Fuselier, qui est professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain, maître de recherche au FNRS, qui appartient à la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication donc, de l'UCL.
Bien, merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette importante journée d'études. Et il est vrai qu'on voit fleurir ce genre de journée d'études, et dans les couloirs, je peux vous dire qu'on parle beaucoup de ces questions dans les couloirs des universités. Alors évidemment, je dirais, faire une présentation juste après le repas, c'est une position un peu délicate, parce qu'il y a quand même une inclination à une somnolence digestive, mais j'espère que un bon café, bien remontant, mais que je vais parler de l'expérience des chercheurs, c'est pas du tout endormant. Et donc, avant de présenter quelques résultats d'un programme de recherche que je mène sur les carrières scientifiques, il me semble important, peut-être que ça a été fait ce matin, désolé, j'avais un cours ce matin, donc je ne pouvais pas assister aux présentations et aux discussions, mais de situer un peu cette expérience dans le contexte de l'université, université avec un grand U pour ne pas la confondre avec des organisations uniquement, et en mettant en évidence quelques éléments qui me semblent fondamentaux pour comprendre cette expérience des chercheurs. Tout d'abord, d'un point de vue traditionnel, mais c'est toujours extrêmement présent aujourd'hui, on ne doit pas évidemment percevoir, et ce n'est pas à vous que je dois le dire, mais il est clair que dans l'espace public, il y a encore peut-être une certaine vision d'une université comme un lieu, finalement, un monde de bisounours, un lieu d'amour et d'union, de sérénité, alors que traditionnellement, l'université a toujours été un champ social, au sens du sociologue Pierre Bourdieu, c'est-à-dire un espace social de lutte pour de la reconnaissance, pour des positions, pour de la valorisation, pour de la légitimité scientifique, avec en son sein des définitions de règles et de différents atouts ou capitaux qui permettent de se faire valoir dans ce champ, qui a une autonomie relative, relative dans la mesure où ce champ peut être, je dirais, d'autres champs peuvent avoir la volonté de diriger le champ scientifique, mais il viendra pour en parler mieux que moi. Mais donc, l'université comme cet espace de lutte de pouvoir, ce lieu de concurrence qui existe de façon traditionnelle et qui est évidemment toujours aujourd'hui de vigueur. Mais à côté de cette dimension, je dirais, d'espace de lutte, il me semble important aussi de comprendre, interpréter l'université sous l'angle d'une greedy institution, c'est-à-dire d'une institution gourmande. Certains traduiront par rapace ou par vorace. Greedy institution, c'est un concept qui nous vient d'un sociologue américain, Lewis Kozer, qui voulait mettre en évidence combien certaines institutions demandaient, voire exigeaient à leurs membres une implication totale dans et pour l'institution. Il avait construit ce concept par rapport à l'institution totale d'un autre sociologue américain, Erwin Goffman, où là, l'aspect totalisant était lié à des cadres contraignants, à du contrôle, tandis qu'ici, c'est plutôt ce côté de l'enrôlement de la personnalité dans et pour l'institution de façon volontaire et désirée. Alors, un exemple, évidemment, ça se lit dans les pratiques quotidiennes, mais aussi dans un certain nombre de textes. Et par exemple, dans l'Université de Louvain, en 2012, les autorités académiques écrivaient explicitement « le professeur d'université entièrement investi dans son travail », puis un peu plus loin, « totalement impliqué ». Ces adverbes « entièrement » et « totalement » sont évidemment des indications de cette « greedy institution », parce qu'on ne parle même pas de « fortement », cette idée vraiment d'une vocation, d'une implication totale dans l'institution. Bien entendu, la dynamique du champ, de la concurrence, couplée à cette dimension « greedy » de l'institution fait en sorte que les personnes qui entrent dans cet espace sont évidemment fortement sollicitées, doivent faire preuve d'une grande disponibilité, ce qui évidemment a des impacts sur une autre dimension, les autres dimensions de leur vie. Alors on peut comprendre, par exemple, quand Pierre Bourdieu théorisait une première fois le champ scientifique, mais on pourrait parler aussi de Robert King Merton sur l'éthos scientifique, on parlait des hommes de science. Des hommes de science qui, le professeur d'université, homme de science, entièrement investi dans son travail et soutenu par une épouse ou célibataire ou prêtre comme Georges Lemaître, théoricien du Big Bang. Ou une autre image du scientifique belge le plus connu. Hein, vous voyez de qui je veux parler ? Le professeur Tournesol. Mais évidemment, ça c'était aussi dans un contexte sociétal où la division sexuée et sexuelle du travail, productif et reproductif, était relativement légitime, même si des mouvements de contestation étaient présents. Mais aujourd'hui, il est très clair que le contexte, je dirais, sociétal, les transformations sociales, culturelles notamment, rendent difficile d'encore aujourd'hui parler des hommes de science entièrement investis dans leur travail. Il y a donc un certain nombre de tensions qui sont manifestes liées à ces transformations-là, mais aussi à des transformations qui concernent davantage ici directement l'organisation universitaire, c'est-à-dire depuis une bonne décennie, on voit une nouvelle régulation entrer dans le monde universitaire, composé avec certains codes du champ, et une nouvelle régulation qui nous vient du New Public Management, et qui était recodé sous le leitmotiv de l'excellence, en tout cas d'une certaine excellence. Et une excellence qui amène à faire une équation entre produire beaucoup, être très compétitif, être toujours à rendre des comptes et être hyper mobile au niveau international. Bien entendu, l'université, y compris traditionnelle, a toujours été un lieu de productivité, de compétitivité, où on était responsable et la mobilité n'est pas récente, mais il y a une forme d'accentuation, une injonction, une pression constante qui opère avec aujourd'hui des instruments de mise en équivalence, de mesure de toutes ces dimensions-là, dans un contexte qu'on doit quand même définir de précarité professionnelle pour le nombre de chercheurs, le nombre de doctorants, de post-doctorants a augmenté. Ceci se trouve dans une situation, je dirais, d'incertitude par rapport à leur avenir professionnel du fait d'un bassin de concurrence qui s'accroît pour des postes définitifs, somme toute, rares. Remarquez, par exemple, j'ai fait juste une projection qui n'est qu'une pure fiction, donc il ne faut pas du tout trop la prendre au sérieux, mais malgré tout, si on regarde les taux de succès au niveau du FNRS l'année dernière, en 2014, pour aspirants FNRS, c'est-à-dire docteurs, chargés de recherche FNRS, post-doctorants, et puis chercheurs qualifiés FNRS, chercheurs permanents, avec 25%, 20%, 12%, mais si on part d'une base de 1000 en imaginant de façon tout à fait fictionnelle qu'on passe dans les différents filtres, bien, il y a 6 chercheurs qualifiés sur 1000 par rapport aux prétendants de la pré-master. Mais comme je vous dis, c'est une pure fiction. Alors, tenant compte de cette problématique générale, en 2010, j'ai décidé de lancer un programme de recherche, tout d'abord de manière volontaire, puis avec le soutien du FNRS, aujourd'hui dans le cadre d'un projet européen, dit Garcia, qui pose la question du genre et des carrières scientifiques, pour travailler sur l'expérience des chercheurs, en me centrant tout d'abord sur les post-doctorants, je pense que ce matin ça a été dit, qui est une population très sensible par rapport aux transformations contemporaines. Et j'ai fait d'abord un focus sur les chargés de recherche du FNRS, qui est une population bien identifiable, qui sont des chercheurs qui sont dans une filière qui est valorisée au sein, en tout cas, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui se trouve aussi dans une situation, en général, de parcours de vie, où de nombreuses décisions doivent se prendre en termes évidemment professionnels, mais aussi du côté de la vie privée, se mettre en couple, acheter une maison, projet d'enfant, parce que la majorité se trouve entre 28 et 38 ans. Et donc, j'ai eu l'occasion de mener des enquêtes par questionnaire, ainsi que des entretiens avec des chercheurs, parfois des entretiens longitudinaux, c'est-à-dire en les suivant pendant 3 ans. Alors, bien entendu, je ne peux pas présenter l'ensemble des résultats. Donc, je vais être ici assez rapide, mais il me semble important d'insister sur certaines dimensions qui touchent au métier et au rapport à la carrière. Tout d'abord, en ce qui concerne le métier, si on le décline en trois dimensions, le rapport au travail et les relations de travail, c'est-à-dire au contenu et les relations sociales qui a sur le lieu, je dirais, de travail, dans les centres, les labos, les départements, etc., le rapport au salaire et le rapport au statut, qu'est-ce qu'on constate tout d'abord? C'est qu'il y a véritablement un rapport très positif au travail et aux relations de travail. On pourrait dire presque sans se tromper que les chargés de recherche FNRS, puisque c'est des deux que j'ai étudiés, mais on pourrait élargir, aiment fondamentalement leur job, aiment fondamentalement leur métier, aiment fondamentalement faire de la recherche et également l'environnement de recherche dans lequel ils se trouvent. Hein, comme je reprends ici, il y a même un chercheur qui dit qu'il n'y a pas vraiment de distance entre le travail, entre le boulot et puis ce qu'il y a à côté, les loisirs. Le travail est un élément, qui fait partie, du sens de sa vie. Le rapport au salaire, lui, reste très positif. Et c'est vrai que les chargés de recherche FNRS ont un salaire tout à fait décent. Mais il n'en reste qu'on trouve quelques éléments de critique, notamment dans les disciplines où le pouvoir de marché est assez important et où le référentiel salarial est le référentiel pour le même niveau de compétences ou de qualifications du privé. Comme l'un chercheur dit, dans le privé, on offre des salaires de 1,5 à 2,5 fois plus importants. Il n'y a pas d'avantages supplémentaires, assurance pension, assurance complémentaire ici, chèque repas, voiture de société, etc., alors que c'est omniprésent dans le privé. Mais ce n'est pas une critique majeure. Où la critique est largement partagée, c'est par rapport au statut, c'est-à-dire par rapport à ce que j'évoquais, la question de l'incertitude par rapport à l'avenir. Là, l'idée que finalement, on ne sait pas, qu'importe les conditions dans lesquelles on est, il y a une grande incertitude sur la possibilité de pouvoir poursuivre cette carrière scientifique, ce travail scientifique. Ce qui est évidemment en lien avec l'élément de concurrence qui avait été évoqué, et il me semblait important de mettre en avant que dans l'enquête menée, dont un chercheur sur deux considère que cette concurrence entre jeunes chercheurs peut être un frein dans sa volonté à s'engager dans une carrière scientifique. Il n'en demeure pas moins que plus de 90% visent en premier choix, si c'était possible, de pouvoir obtenir un poste permanent dans la recherche. Mais lorsqu'on leur demande, si vous aviez un poste permanent dans la recherche universitaire, à quel pourcentage estimeriez-vous la probabilité de l'obtenir? Alors là, la donne change, surtout si on la croise avec des dimensions finalement péri-scientifiques, c'est-à-dire le sexe et la situation parentale. Les plus optimistes, ce sont les pères. Les pères qui estiment, je prends la médiane, donc 50% des pères estiment à 65% ou plus la probabilité d'obtenir un poste permanent. Les plus pessimistes, ce sont les mères, avec une médiane de 30%. Ça veut dire que 50% des mères estiment avoir 30% ou moins de chances d'obtenir un poste permanent, alors que les femmes et les hommes sans enfants sont très proches, avec une médiane de 50%. Cela, je pense, souligne l'importance qu'il y a dans le vécu de la carrière scientifique et dans la façon dont elle est organisée aussi, est organisée la carrière scientifique, l'importance des dimensions genrées et des dimensions aussi de la vie privée. Alors, il y a une tension travail-famille qui est manifeste, et là, comme il me reste 5 minutes, je pensais que j'avais 20 minutes de parole. On n'a pas commencé à l'heure. Hein. C'est une tension qui est en tout cas très manifeste, et en particulier du côté des mères et des femmes. La question d'obtenir, d'avoir un enfant est perçue par 82% des mères, 71% des femmes comme étant un obstacle au développement de la carrière, et ce taux tombe à 46% pour les hommes sans enfants et 41% pour les pères, ce qui sont quand même des taux qui ne sont pas négligeables. Ce que je voudrais mettre maintenant ici en avant, c'est les différents rapports à la carrière à partir de l'analyse d'entretien, des rapports à la carrière scientifique qui sont en quelque sorte, ce sont des idéotypes, c'est-à-dire ce sont des logiques. Certains chercheurs les incarnent fortement, d'autres sont plutôt hybrides par rapport à ces logiques, ces rapports à la carrière, qui jouent en quelque sorte comme, des points cardinaux pour comprendre un peu l'expérience. Alors, le premier rapport qu'on a mis en évidence à travers les entretiens, c'est ce qu'on a appelé le rapport engagé au métier. C'est la figure là, du chercheur qui fait de la recherche véritablement sa priorité de vie, où il se lève le matin, il pense recherche, il prend son bain, il pense recherche, il arrive au boulot, il pense recherche. Il y a une intégration complète de la recherche et de sa vie, y compris privée. Être habité par la recherche est quelque chose qui est d'ailleurs très fréquent, mais ici, véritablement articulé ou à cette perspective, c'est une priorité de vie. Alors, on retrouve ce rapport engagé de façon privilégiée chez des chercheurs célibataires ou en couple, de jeunes chercheurs en couple. Un tiers des chargés de recherche FNRS sont en couple avec aussi des chercheurs. Dans la construction du couple, dans le début, à la fois de la carrière, je dirais, conjugale et de la carrière professionnelle. On le retrouve aussi chez des chercheurs qui ont des enfants, mais dont le conjoint ou la conjointe surtout est en soutien à leur carrière. Le deuxième rapport, c'est le rapport optimiste au métier, dans le sens où ce sont aussi des chercheurs qui sont fortement impliqués, mais peut-être pas entièrement impliqués, et qui essayent de trouver une conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale, mais avec un optimisme parce qu'ils ont obtenu un certain nombre de signaux déjà positifs dans leur carrière scientifique, et en même temps, ce qui se passe dans leur vie privée les satisfait, les apaise aussi par rapport aux tensions professionnelles, bref, sous l'angle plutôt de la conciliation et de l'équilibre, et on retrouve ça principalement chez des pairs, dans un modèle assez traditionnel, avec le soutien, je dirais, de leur conjointe. Le troisième rapport est un rapport ambivalent au métier. C'est un rapport dans lequel, finalement, on est en tension, on est tiraillé avec le sentiment, et qui avait déjà été mis en évidence en France sur l'étude des biologistes par Catherine Marie et Irène Jonas, la double culpabilité des mères, de ne pas être suffisamment un bon chercheur parce qu'on n'est pas suffisamment disponible et pas suffisamment une bonne mère parce qu'on n'est pas non plus suffisamment disponible. Et enfin, le dernier rapport que l'on peut observer, et vous voyez que ces rapports peuvent évoluer évidemment l'un à l'autre dans le temps en fonction d'un certain nombre d'éléments du parcours de vie, le rapport désengagé et distant au métier. Là, il s'agit finalement de chercheurs qui, à un moment donné, soit n'y croient plus trop, parce qu'ils ont eu des signaux là qui étaient plutôt négatifs, on dit qu'il n'y a plus grand espoir à obtenir, mais on aime toujours notre boulot, mais notre métier, notre travail, mais en même temps on n'y croit plus, donc on réinvestit dans d'autres éléments qui donnent sens, je dirais, à sa vie, ou des chercheurs qui disent « moi je ne veux pas faire tous les sacrifices demandés pour une hypothétique carrière scientifique ». Et je peux vous dire, à travers l'étude notamment européenne que je mène actuellement avec des collègues, on analyse notamment les movers, on retrouve un certain nombre de personnes qui quittent l'institution scientifique, qui quittent la carrière parce qu'ils se disent finalement, semble avoir une grande vocation, mais je ne suis pas prêt à vivre cela. Ce qui est quand même fortement interpellant. Alors, au niveau de la régulation de la carrière, on peut dire, et j'arrive vers la conclusion, la carrière scientifique favorise chez les chargés de recherche l'engagement couplé à une grande liberté de pensée, d'action et d'organisation. En quelque sorte, c'est un dispositif, finalement. On œuvre dans un dispositif qui libère en même temps qu'il régule. Et la politique scientifique organise la performance sans passer par la contrainte directe. C'est extrêmement intéressant, le fait que, malgré tous les indicateurs que l'on a, chacun est libre quand même de faire ce qu'il veut. Est-ce que je vais répondre à telle demande de publication? Est-ce que je vais aller à tel ou tel colloque? Est-ce que je vais accepter de donner un cours? Est-ce que je vais accepter d'animer un réseau? Est-ce que je vais accepter d'être éditeur d'une collection d'ouvrages ou d'une revue, etc. Chacun est finalement relativement libre de choix, mais en même temps, s'il ne fait pas, il sent qu'il y a là, un certain nombre de risques de ne pas être reconnu ou de ne plus être dans la course. Et donc la combinaison du plaisir que procure le travail scientifique, de la liberté qui le caractérise, du désir de rester dans le métier, la mise en concurrence pour des postes rares, mais ces chercheurs sous haute tension, pour reprendre le titre d'un petit ouvrage que j'avais rédigé avec Maria Del Rio Caral fin 2012. Et donc, on peut dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas bon, hein? Est-ce que ce n'est pas profitable, je dirais, au système? Mais il me semble qu'il y a un certain nombre de faiblesses, et ici j'en citerai trois. Tout d'abord, du fait de la concurrence entre jeunes chercheurs, il crée une inquiétude quant à la réelle opportunité d'obtenir un mandat permanent définitif, je l'ai évoqué. Il engendre un tiraillement entre la temporalité professionnelle et les temporalités privées, ce qui peut avoir des effets dissuasifs sur des chercheurs. Il risque, pour ces raisons, de retenir finalement dans son fil et donc de ne pas laisser passer des chercheurs à très haut potentiel, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité du travail scientifique. Et donc, quelques pistes de réflexion, et je sais que nos institutions y réfléchissent, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux calibrer le bassin de concurrence entre le nombre de prétendants et le nombre de postes accessibles? Alors, je sais qu'il y a un marché international, mais ça gonfle à tous les niveaux. Donc je veux dire que le bassin de concurrence croît partout. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi assurer la mise en place de fonctions intermédiaires alternatives? Moi, j'ai rencontré un certain nombre de chercheurs qui disent « J'adore ce que je fais, mais je ne me définis pas comme un champion de la recherche, mais j'aimerais bien que pouvoir continuer dans la recherche parce que c'est un boulot auquel je pense, qui m'apporte beaucoup, auquel je peux apporter beaucoup. Mais je voudrais que ce soit un boulot comme un autre. » Or, aujourd'hui, tout se passe un peu comme du tout ou rien. Enfin, et là, c'est évidemment l'enjeu un des enjeux de la journée d'études aujourd'hui, revenir sur des critères d'évaluation du travail scientifique. On est quand même dans une logique de ce que j'appelle le CV bodybuilding. On fait du bodybuildage de son CV, de la gonflette qui n'est même plus très naturelle. Quand je vois certains jeunes doctorants où ils n'ont pas encore lu 10 livres pour rédiger leur thèse, qu'on leur dit déjà de publier, et quand quelqu'un a terminé sa thèse et qu'il n'a publié que 3 articles, j'entends un collègue qui dit « Oh, c'est quand même pas beaucoup », ça me pose véritablement question. Je crois qu'on doit, et là c'est une proposition, en tout cas, promouvoir la figure du chercheur patient publié à bon escient et reconnaître aussi la multidimensionnalité du travail de la recherche. Le métier, c'est un métier complexe, c'est un métier participer, faire vivre la science de multiples dimensions. C'est évidemment produire des connaissances rigoureuses, patientes, solides, incertaines. C'est aussi les transmettre, bien entendu, mais c'est aussi participer à mettre en place des infrastructures, c'est aussi participer à gérer une revue, c'est aussi. Donc il y a toute une série de dimensions qui, je pense, devraient être proclamées comme faisant véritablement partie du métier. Voilà, j'espère ne pas avoir pris trop sur le temps. Merci beaucoup et je suis bien.
Merci Bernard. Désolé vraiment pour cette contrainte temporelle, cette petite violence que le président doit infliger à tous ceux auxquels il donne la parole.